Merci Jean-Yves pour ta prière et bonjour à tous. Hop. Alors ce matin, je vais commencer par une question et la réponse à cette question vous permettra de deviner le thème important que nous allons aborder ce matin. Qu'est-ce qui vous prend le plus de temps dans votre vie ? J'entends pas assez. Qu'est-ce qui vous prend le plus de temps dans votre vie ?
Le travail.
Le travail. Je suis désolé, je n'ai pas fait exprès, mais nous sommes en période de vacances scolaires. Et ce qui m'a fait penser à ça, c'est qu'il y a Diego, par exemple, qui vient de Suisse. Désolé Diego, tu es en vacances, mais ce matin, on va parler de travail. Et quand je dis travail, je ne dis pas forcément activité professionnelle. Je ne dis pas forcément une profession. Même si, bien évidemment, pour la plupart d'entre nous ici, c'est ce qui nous prend la majorité de notre temps. Ce matin, quand je dis travail, je pense à tout type de travail. Ranger les poubelles, étudier, nettoyer la table, mais aussi la traite des vaches, qui m'a permis d'avoir du lait ce matin dans mon bol. Peut-être qu'on l'oublie, mais c'est vrai. Maintenant, j'ai une deuxième question. Quelles sont les idées ? Quelles sont les idées que vous associez au travail ? Si je vous dis travail, qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit ? Ok. Alors, Ipsos, qui est un institut de sondage français, nous donne les résultats d'une étude super intéressante sur le travail et les Français. Et les idées associées le plus au travail sont les suivantes. Argent, vie sociale, nécessité, épanouissement, stress, dynamisme, reconnaissance, performance, opportunité, contrainte, usure, exploitation, frustration. Dans cette liste, les mots « nécessité », « stress », « contrainte », « usure », « exploitation », « frustration » sont des idées plutôt à connotation négative. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous poser les questions suivantes ? Quel est le sens de mon travail ? Tout type de travail. Quel est le sens de mon travail ? Pourquoi est-ce que je dois travailler ? Ces questions peuvent avoir des réponses multiples et toutes être quelque part justes. Il est juste de dire que le travail permet de nourrir, par exemple, une famille. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres réponses possibles ? Deux personnes peuvent avoir des motivations différentes et justes tout en faisant le même travail. Ce matin, je suis conscient que je m'adresse et je vais rajouter des gens à ce que j'avais noté déjà, tout en probablement oubliant encore des gens. Je m'adresse à des lycéens, des gens qui sont à l'école, des étudiants. Je m'adresse à des différents types de personnes dans différents types de secteurs d'activité, à des retraités, à des chômeurs, des femmes au foyer qui ont des enfants et qui ont donc un travail de cadre plus. Et en faisant cette liste, je n'ai fait que mentionner une partie de qui nous sommes ce matin. Les personnes, par exemple, dans le monde des affaires, n'ont pas les mêmes problématiques que les personnes dans l'art ou, par exemple, dans le service à la personne. Mais mon but ce matin, avec les textes de la Bible que nous allons voir ensemble et qui parlent du travail, c'est de nous lever demain matin et de dire « Dieu merci, c'est lundi ». Ça sera possible ? Je l'espère. Lisons ensemble Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Et ensuite, tout de suite, c'est dans ce texte aussi, on va lire le chapitre 2, mais juste les versets 1 à 3. Et on va finir enfin avec le verset 15. Si vous ne voulez pas chercher dans vos Bibles, c'est simple. Suivez avec moi juste ici. On va y arriver. Je vais commencer donc par lire, donc ça commence donc Genèse chapitre 1 verset 26. Je lis donc ce texte. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le septième jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le septième jour. Dieu bénit le septième jour et en fit un jour saint. Parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Nous verrons ce matin qu'il y a un lien entre le travail et la foi. Ce matin, nous verrons la vision biblique du travail, en tout cas celle qui est développée dans ces textes. Si nous voyons juste notre activité professionnelle comme un gagne-pain et tous les autres types de travail comme quelque chose de juste nécessaire que je dois faire, il est normal, il est tout à fait logique de voir le travail comme une malédiction plutôt qu'une bénédiction. Pourtant, si demain nous pourrons dire « Dieu merci, c'est lundi », c'est parce que le travail est une bénédiction. Le travail est une bénédiction. Nous pouvons regarder autour de nous et nous dire, en observant, que le travail est mauvais en soi. Mais le Dieu de la Bible pense tout le contraire. La Bible, dès le début, parle de quoi ? De travail. Et cela nous montre l'importance du sujet. Dans les textes que nous venons de lire, nous voyons un Dieu qui travaille et qui demande à l'homme de travailler. Le travail existe depuis la création. Et non pas depuis le moment tragique de l'humanité, ce moment que nous appelons généralement la chute. Ce moment où l'homme, pour la première fois, a désobéi à Dieu. Ce moment tragique où l'homme a décidé de faire un peu ce qui lui semblait bon. Et les conséquences sont juste horribles. Pour lui personnellement, mais aussi pour la société et pour le monde. Il est vrai que les conséquences de cette première désobéissance à Dieu sont des malédictions. Mais le travail n'en fait pas partie. Le travail existait déjà avant ce moment. Nous pouvons lire en Genèse 3, versets 17 à 19. Donc, Genèse 3, versets 17 à 19. « Il, et c'est Dieu qui parle, a dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tueras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. » Le travail est devenu pénible depuis ce moment. Mais le travail n'est pas mauvais en soi. Pour faire simple, la Bible nous dit au commencement le travail. Le travail n'était pas un mal nécessaire. Non, Dieu a travaillé pour le seul plaisir de travailler. Le travail faisait partie du paradis. C'est vrai. Et vivre dans un cycle de vie, de travail et de repos a toujours fait partie du plan de Dieu pour l'homme. C'est toujours ce que Dieu a voulu pour l'homme. Le travail est une bénédiction. Nous n'avons pas seulement besoin de l'argent que nous donne le travail, mais nous avons besoin du travail en lui-même pour avoir une vie qui a du sens. J'ai bien aimé cette citation et je vous la lis. Quelle est la conception chrétienne du travail ? C'est que le travail n'est pas premièrement une chose qu'on fait pour vivre, mais la chose qu'on vit pour faire. Sans du travail qui a du sens, nous ressentons un sentiment de tristesse et de vide intérieure. Il suffit d'allumer notre télé et quand ça parle un petit peu du chômage. Vous avez peut-être déjà pensé ou entendu dire que pour être heureux, il fallait ne pas travailler. Parce que ce qui nous rend heureux, ce qui nous rend vraiment heureux, sont les loisirs. Ce qui nous rend vraiment heureux, ce sont les temps en famille. Ce qui nous rend bien, vraiment, vraiment, vraiment heureux, c'est des temps comme ce matin, où nous sommes réunis. C'est pendant le week-end que nous sommes heureux, et le lundi. Pourtant, la Bible pense tout le contraire. Bien évidemment, on peut trouver de la joie dans toutes ces choses, être heureux. Mais la Bible ne pense pas qu'il faut écarter le travail pour qu'on soit heureux. Pensez aux poissons. Ils respirent l'oxygène dissous dans l'eau et non l'oxygène qui se trouve dans l'air. Ils sont heureux à l'intérieur de l'eau et non à l'extérieur, même si parfois ils peuvent sauter et sortir un petit peu de l'eau. Nous ne vivrons pas une vie équilibrée et avec du sens, sans travailler. Mais au même temps, nous ne pouvons pas dire que notre travail est le sens de notre vie. Je répète, nous ne vivons pas une vie équilibrée et avec du sens, sans travailler, mais au même temps, nous ne pouvons pas dire que notre travail est le sens de notre vie. Et c'est là qui a toute la complexité par rapport au travail. Il existe deux pièges, au moins par rapport au travail. Le premier, c'est de le diaboliser, alors qu'il n'est pas mauvais en soi. Et le deuxième, c'est d'en faire notre identité. Récemment, dans le cadre de mon travail, j'ai dû faire une carte de visite. Mais mon identité ne peut pas être dans cette carte de visite. Si le travail est notre identité, c'est très dangereux, vraiment dangereux, parce que c'est une idole que nous adorons. Si je réussis, cela me détruira parce que je deviendrai très orgueilleux. Et si j'échoue dans mon travail, alors ça me détruira également, parce que j'aurai le sentiment de ne servir à rien et de n'avoir aucune valeur. Si nous voulons être reconnus, acceptés et en pleine sécurité, c'est possible, mais seulement en Jésus-Christ. C'est possible pleinement en Jésus-Christ. Les hommes cherchent toujours, en dehors de Jésus, ce qu'ils ne peuvent trouver qu'en lui. Nous aimons faire des idoles. Le travail est devenu une de ces idoles dans notre société. Mais seul Jésus peut nous accepter, non pas en fonction de nos performances, mais parce qu'il nous aime tout simplement. Il peut nous pardonner de toutes nos erreurs, nos fautes, nos péchés. Il peut nous faire sentir en sécurité, quelles que soient les circonstances, parce qu'une fois que nous lui avons donné notre vie, il ne nous rejettera jamais. Le message central de toute la Bible, l'évangile résumé par le fait que Christ est mort pour des faibles et des pécheurs comme nous ce matin, nous remplira de reconnaissance si nous réussissons dans notre travail. Nous serons reconnaissants envers Dieu si nous réussissons dans notre travail et nous permettra de ne pas être détruits si nous échouons au travail. Parce que nous ne sommes pas définis par ce que nous sommes, mais par ce que Dieu dit que nous sommes. Tu es mon enfant bien-aimé, pardonné, accepté, reconnu et en pleine sécurité en moi. Voilà ce que Dieu nous dit ce matin. Si nous avons reconnu que nous sommes pécheurs et que Christ a pris notre péché il y a 2000 ans à la croix, le travail ne nous permettra jamais d'avoir ce sentiment-là. Pour finir sur ce point, le travail est beaucoup de travail, est très important pour une vie pleine de sens, mais le travail ne doit pas donner le sens à notre vie. Pour ne pas tomber dans les deux pièges que j'ai soulevés, nous devons imiter Dieu, travailler et nous reposer. Dans le livre d'Exode, au chapitre 20, versets 9 à 10, c'est écrit « Pendant 6 jours, tu travailleras. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Avoir des cycles en continu de travail et de repos nous permettra de ne pas diaboliser le travail et de ne pas faire du travail une idole. Parce que nous prendrons des temps où nous ne travaillerons pas. Nous prendrons des temps pour des loisirs. Et le meilleur loisir qui nous fera toujours un grand bien est celui d'adorer Dieu, comme nous faisons ce matin. Le travail est donc une bénédiction. Et demain, nous pourrons dire « Dieu merci, c'est lundi, parce que le travail est une bénédiction ». Nous pourrons aussi dire « Dieu merci, c'est lundi, parce que le travail est une collaboration avec Dieu ». John Stott, un théologien qui a servi pendant des années une église à Londres, a écrit dans un de ses livres, je vais lire, « J'aime bien l'histoire du jardinier Cockney, qui montrait à un ecclésiastique ses plates-bandes magnifiques, tout en fleurs. » L'ecclésiastique, qui était sûrement donc un prêtre ou un pasteur, quelqu'un qui, aux yeux de la société, sert dans l'église à plein temps, éclata en louanges à Dieu tant et si bien que le jardinier se fâcha de ce manque de reconnaissance. « Vous ne verriez pas ce magnifique jardin, se plaignait-il, si Dieu avait dû le faire lui-même. » John Stott continue en disant que ce jardinier faisait montre d'une théologie très correcte. Sans le travail de l'homme, ce jardin n'aurait été qu'un terrain vague. Nous devons procéder à une importante distinction entre nature et culture. La nature est ce que Dieu nous donne, la culture ce que nous faisons, agriculture, horticulture, etc. La nature, ce sont les matières premières. La culture, les produits préparés pour être vendus au marché. La nature, c'est une création divine. La culture, c'est le produit d'un travail humain. Dieu nous invite à participer à son travail. Notre travail devient alors un privilège si nous le considérons comme une collaboration avec Dieu. Fin de citation. Quand nous travaillons, nous sommes quelque part les doigts de Dieu, ses collaborateurs au travers desquels il prend soin de la création. Je suis désolé, je vais devoir me moucher. Dieu traire les vaches à travers le labeur du paysan. Dieu pourrait facilement vous donner du blé et des fruits sans que vous ayez à labourer et à planter, mais il ne le veut pas. Ce sont des citations de Martin Luther, réformateur au XVIe siècle, et si vous ne le connaissez pas, je parlerai encore un petit peu plus de lui dans la suite de la prédication. Dieu agit avec nous comme un père. Mon père, qui avait une entreprise d'électricité, m'a pris avec lui quand j'étais plus jeune, pendant les vacances. Et il m'a permis de faire des choses qu'en fait, il faisait beaucoup mieux que moi. Et en fait, il n'avait pas forcément besoin de moi. Mais en fait, j'ai bien aimé. Cela m'a permis de grandir. Cela m'a permis d'apprendre des choses. J'étais vraiment content, en fait, de montrer les outils qu'il me permettait d'utiliser. J'étais content, en fait, tout simplement, de travailler avec lui. Reconnaître que c'est Dieu qui nous fournit des ressources et qu'il nous donne le privilège de participer à son œuvre devrait nous aider à voir tout type de travail intellectuel ou manuel comme une preuve de notre dignité humaine. Tout travail accompli pour Dieu et notre prochain reflète en nous l'image du Créateur, qui a travaillé, qui continue à travailler et nous permet de travailler avec lui. Si Dieu venait dans le monde, à quoi ressemblerait-il? Pour les Grecs de l'Antiquité, il aurait pu être un roi philosophe. Les Romains auraient pu désirer un homme d'État juste et magnanime. Mais comment le Dieu des Hébreux est-il venu dans ce monde? Comme un charpentier. Ça parle bien évidemment de Jésus et c'était encore une citation. En tant que chrétien, nous pouvons voir tout type de travail comme digne à faire s'il est dans le cadre éthique donné par Dieu, parce qu'il reflète en nous l'image de Dieu. Quel privilège! de collaborer avec Dieu en travaillant. Demain, nous pourrons dire « Dieu, merci, c'est lundi parce que le travail est une bénédiction, parce qu'il est une collaboration. » Et enfin, nous allons le voir maintenant, parce qu'il est une vocation. Le terme vocation aujourd'hui ne nous parle peut-être pas trop. Il est tout simplement un synonyme du mot « travail ». Mais en fait, une vocation ne peut être qu'un travail qui nous a été donné. Un travail qui nous a été donné comme une mission et que nous faisons pas seulement pour un intérêt personnel. Grâce au texte que nous avons lu ce matin, où par exemple nous pouvons lire « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la ». La vision biblique du travail est que le travail dans la Bible est une vocation, parce qu'il doit être fait pour Dieu et pour notre prochain. Pour les réformateurs du XVIe siècle, Martin Luther et Jean Calvin, qui ont développé une théologie totalement différente de celle de l'Église catholique, tout travail, même un travail dit séculier, c'est-à-dire un travail qui n'est pas fait pour l'Église ou via l'Église, tout travail était un appel de Dieu. C'était un ministère, c'est-à-dire un service qu'on fait pour Dieu. Un service comme celui du moine ou du prêtre à l'époque. Luther s'est opposé à l'idée que le travail pour Dieu n'était que celui qu'on faisait à l'intérieur de l'Église, pour l'Église. Et il s'est opposé dans un traité intitulé « À la noblesse chrétienne de la nation allemande ». Il dit, c'est un peu dur, mais il le dit, « On a inventé que le pape, les évêques, les prêtres, les gens des monastères seraient appelés états ecclésiastiques. Les princes, les seigneurs, les artisans et les paysans, états laïcs. Ce qui est certes une fine subtilité et une belle hypocrisie. Mais personne ne doit se laisser intimider par cette distinction. Pour cette bonne raison que tous les chrétiens appartiennent vraiment à l'état ecclésiastique. Il n'existe entre eux aucune différence, si ce n'est celle de la fonction. Nous sommes absolument tous consacrés prêtres par le baptême, comme le disent saint Pierre. Vous êtes un sacerdoce royal, une royauté sacerdotale, et l'Apocalypse, tu as fait de nous, par l'effusion de ton sang, des prêtres et des rois. » Tout ça pour dire que être médecin, mécanicien, musicien, etc., ranger la table, nettoyer des poubelles, sont des professions et des tâches tout aussi nobles et dignes que tout travail spirituel pour l'Église ou via l'Église, à plein temps ou pas. Notre travail est un appel, une vocation si nous réalisons que c'est une mission pour servir les autres. Remplir la terre et la soumettre ou la dominer est un commandement que les théologiens appellent le mandat culturel. Remplir la terre, c'est bien plus que la procréation. C'est vraiment créer une société. C'est ce que Dieu a demandé à l'homme au moment de la création. Il n'y a aucune violence dans ces mots, soumettre et dominer. Ces mots sont tout simplement le commandement de Dieu donné à l'homme pour administrer ou gérer la création de Dieu. Chaque fois que nous mettons un petit peu de l'ordre dans notre monde, chaque fois que nous développons et transformons positivement la création, nous obéissons au mandat culturel que Dieu nous a donné. Le bon progrès n'est pas mauvais. Dieu l'encourage. Voir le travail comme un appel, une vocation de Dieu, est le meilleur moyen pour nous de servir notre prochain. Imaginez que tout le monde arrête de travailler demain. Il n'y a plus de nourriture dans les grandes surfaces. Il n'y a plus Internet, aucun transport public, pas d'école. En quelques jours, ce serait le bazar. La vision biblique du travail est à l'opposé de ce qu'on nous présente bien souvent. Le travail n'est pas un moyen, n'est pas juste le moyen pour nous de progresser, de se développer personnellement. Le travail n'est pas un moyen juste pour obtenir un peu plus de pouvoir dans la société. Non, le travail, selon la Bible, est un moyen de contribuer au bien commun. Le travail, selon la Bible, doit être fait pour le bien de tous. La foi vécue dans le travail change tout. Mais ça ne veut pas dire que nous devons faire absolument tout ouvertement au nom de Jésus. Un musicien chrétien, par exemple, ne doit pas forcément faire que de la musique chrétienne, même s'il peut le faire et que c'est bien de le faire et que ça nous permet de chanter des chants le dimanche matin qui sont magnifiques. Mais un musicien chrétien, par exemple, peut faire des musiques où il ne mentionne pas le nom de Dieu, où il montre tout simplement que adorer autre chose que Dieu est destructeur. Par exemple, adorer autre chose que Dieu, par exemple le travail, est destructeur. Et c'est possible de le faire par de la musique. Pour glorifier Dieu dans notre travail, nous n'avons pas forcément besoin de travailler dans une organisation chrétienne qui parle ouvertement de Jésus. Le travail est le moyen de prendre soin de la création, mais aussi de la gérer et de la structurer. Si nous travaillons parce que nous voulons tout simplement obéir aux premières pages de la Bible, que nous voulons obéir à ce mandat culturel en imitant Dieu, nous adorons Dieu et nous servons notre prochain. Demain, je crois qu'il est vraiment possible de dire « Dieu merci, c'est lundi » parce que le travail est une bénédiction, le travail est une collaboration avec Dieu et le travail est une vocation. Si en tant que chrétien et tout récemment sorti de l'école, cette question m'a travaillé. Si en tant que chrétien, travaillant dans le monde séculier, c'est-à-dire pas directement pour l'Église ou via l'Église, nous ne trouvons pas de sens spirituel à nos activités. Nous vivons une espèce de double vie. Nous ne faisons pas le lien entre ce que nous vivons le dimanche matin et le reste de notre semaine. Il est important de comprendre que le travail est une activité spirituelle, dans le sens que c'est Dieu lui-même qui nous a demandé de travailler pour l'adorer et pour servir notre prochain. Tout travail, quel qu'il soit, est un acte d'adoration pour Dieu qui nous a appelés et équipés à le faire pour le bien de la société. Travailler avec une vision chrétienne du travail et du monde ne nous oblige pas à vraiment, comme j'ai dit, à tout faire ouvertement au nom de Jésus. Ça n'oblige pas un musicien chrétien à faire de la musique chrétienne. Ça n'oblige pas, par exemple, un homme qui est dans le monde des affaires à vendre un produit ou un service chrétien à des chrétiens, même s'il peut le faire et que ça peut être peut-être bien de le faire. Travailler en tant que chrétien, ce n'est pas non plus taper avec la Bible sur la tête de nos collègues au travail. Même s'il ne faut jamais hésiter à le faire, quand l'occasion se présente, parce que justement, nous faisons un travail pour adorer Dieu et pour servir notre prochain. L'évangile doit être pour nous comme une paire de lunettes. Jean-Yves en a parlé au début. Il y a une prière aussi. En fait, Dieu change notre regard sur le monde et donc sur le travail par l'évangile. Les managers chrétiens, par exemple, au lieu d'être un peu des dictateurs, seront au service de toute leur équipe pour les aider, pour aider chacun à atteindre, par exemple, les objectifs collectifs. Les artistes chrétiens ne vont pas juste chercher à faire, par exemple, plein d'argent, mais ils vont tout simplement chercher peut-être à faire quelque chose de beau, parce que tout ce que Dieu a fait, il a dit, c'est bon. Les hommes d'affaires chrétiens ne vont pas juste, par exemple, avoir une entreprise pour uniquement faire de l'argent, mais peut-être pour créer des emplois et donc servir notre prochain. C'est vraiment difficile, cette question du travail. À chacun de nous de trouver les implications concrètes de l'évangile dans notre travail. Parfois, le résultat d'un travail fait par un chrétien et un non-chrétien ne sera pas forcément différent. Par exemple, livrer du courrier par la poste. Je ne sais pas si le facteur qui livre du courrier chez moi est chrétien ou non. Mais s'il est chrétien, ce qui change avant tout, ce sont ses motivations. Parce qu'il ne fait pas son travail juste pour gagner de l'argent, mais pour adorer Dieu et me servir moi. Et donc, je dois être reconnaissant pour le travail qu'il fait, parce que le travail qu'il fait me sert et sert la société. Donc, c'est un peu ça l'évangile. L'évangile change absolument tout. L'évangile change nos cœurs, nos motivations. L'évangile change l'Église, notre Église, la manière comment nous vivons absolument tout. Et l'évangile change notre monde. Vous êtes prêts demain à cultiver et à garder le jardin de Dieu? Nous devons le faire parce que le travail est une bénédiction, une collaboration avec Dieu et une vocation. Je termine juste avec deux versets. Que vous mangiez, que vous viviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et un autre verset, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Que Dieu nous aide chacun vraiment à voir comment l'Évangile a des implications concrètes dans notre vie de tous les jours, y compris dans notre travail. Je vais prier pour nous tous. Seigneur, nous ne pouvons qu'être émerveillés par ton plan qui est si parfait. Nous ne pouvons être émerveillés que par l'Évangile qui change absolument tout. Ton message change nos cœurs, ton message change ceux qui nous entourent et ton message change quelque part le monde. Et Seigneur, aide-nous à voir à vraiment les choses comme toi tu les vois. Aide-nous à voir tes lunettes. Les lunettes de l'Évangile, pour savoir comment nous devons agir en tant que chrétiens. Et merci parce que ce matin, ta parole encore, la Bible, nous donne des réponses concrètes sur des choses que parfois nous n'arrivons pas à concilier, mais qui sont vraiment conciliables. Seigneur, merci vraiment pour ta parole et aide-nous à toujours mieux la connaître pour mieux te servir et plus te glorifier. Dans le nom de Jésus. Amen.